on va faire une table ronde. Alors l'idée de la table ronde, c'est effectivement de passer après tous les exposés aux préoccupations vraiment concrètes, à la manière dont chacun ou chacune a pu, dans sa pratique ou dans son expérience personnelle, être en rapport avec l'accompagnement des 10. Alors je vais essayer juste en très rapidement, 5 minutes, de dégager trois petits axes en fait que je vais éventuellement un peu relier aux expériences que j'ai pu faire pour vraiment arriver sur cet aspect pratique de la discussion. Et puis ensuite, donc Magali Lastricani Jolivet, qui est ici présente, qui est responsable donc de la mission handicap à Lyon 3, va faire part de son expérience en fait de praticienne à la mission handicap. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans l'accompagnement des 10 dans le supérieur. Marion Saint-Zing, donc également de Lyon 3, comme médecin directeur, voilà, pourra aussi voilà apporter des précisions, ainsi que Nathalie Bedouin. Donc on a plusieurs expertises, sachant que le but est de faire une intervention du public, que chacun puisse s'exprimer et faire part de ses expériences pour qu'il y ait une discussion et que les différentes praticiennes et praticiens puissent rebondir dessus. Alors, ce que j'ai remarqué, ce qui est ressorti effectivement de la discussion et qui correspond tout à fait à l'expérience qu'on peut faire, par exemple, moi, étant enseignant, c'est l'expérience que j'ai faite, c'est la méconnaissance autour de la dyslexie chez les adultes. Et quand on est à l'université, à l'université avec les étudiants, il y a un double problème. C'est d'une part, les équipes enseignantes et une grosse partie des personnels ne sont pas sensibilisés à la question de la dyslexie ou des troubles 10 en général. Et les étudiants eux-mêmes, ceux qui sont 10, se disent, bon, c'est bon, j'ai passé des années de remédiation orthophonique, etc. Je ne veux plus en entendre parler et je ne veux pas être stigmatisé à l'université. Donc, il y a un recul des étudiants qui sont rétifs à toute forme de remédiation. Et leurs collègues, qu'on va dire, qui ne sont pas en situation de handicap, très souvent peuvent être assez... Enfin, stigmatisent leurs collègues en situation de handicap. Donc ça, c'est la première question qui se pose, en fait, dans l'accompagnement des 10 dans le supérieur. Comment arriver à lever le tabou et à permettre un véritable travail autour de ces troubles qui sont invisibles et qui, pour être invisibles, sont particulièrement tabous. Alors, pour cela, ce qui était extrêmement intéressant dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu un certain nombre d'outils, de préconisations, qui sont en particulier issus de la recherche, des recherches appliquées, et ça vient combler un manque. Alors, ce qui, pareil, hein, dans l'expérience de l'enseignant, est une grosse difficulté quand on est enseignant, qu'on a rapport avec des étudiants 10, quand on a la chance d'avoir des étudiants 10 qui se sont déclarés, parce que parfois on ne le sait pas, c'est qu'on ne sait pas comment adapter les exercices, comment adapter les examens. Donc on est assez isolé, et je trouve que c'était particulièrement intéressant dans cette journée d'avoir un certain nombre de préconisations et donc de stimulation pour savoir ce qu'on peut faire, comment on peut aborder les 10 pour les accompagner correctement dans leurs études. Donc ça, c'est un deuxième point qui me paraissait particulièrement intéressant. Et sur cet angle-là, justement, je voulais revenir sur la question de la motivation qui a fait parler tout à l'heure. La motivation, pareil, c'est ce que j'ai pu vivre dans la pratique professionnelle, est extrêmement importante. Quand on a des étudiants 10, ils sont déjà extrêmement... souvent, ils se renferment, enfin, où ils ont du mal à reconnaître leur trouble. Eh bien, quand on parle avec eux, qu'on les approche avec bienveillance et qu'une équipe pédagogique se met en place pour les écouter, on sent qu'ils gagnent confiance en eux et qu'effectivement, ça soutient leurs efforts. Donc, c'est un aspect qu'il faut surtout pas négliger et qui, justement, donc, j'étais très intéressé de voir que les préconisations contenaient l'aspect motivation parce qu'il est effectivement... essentiel. Enfin, ce qui est essentiel dans l'accompagnement des 10 dans le supérieur, on a pu en parler, c'est la question des structures. Alors, étant de Lyon 2, j'étais très intéressé par la présentation de la mission handicap de Lyon 3 et particulièrement de cette équipe plurielle, parce que comme j'expliquais à Magali à l'instant, à Lyon 2, il y a une équipe qui fait un gros travail et qui vraiment a monté ces dernières 4 années une belle mission handicap, mais le chemin à parcourir est encore long. Et c'est intéressant de voir que dans d'autres universités, les structures fonctionnent mieux. Mais ce qu'avait fait remarquer Marion Saint-Zin, on avait parlé des moyens. Et ça, c'est une grosse question. Les moyens qui sont attribués pour l'accompagnement des 10, des étudiants en situation de handicap en général, on bute aussi bien sur les moyens financiers que sur les inerties institutionnelles. Donc ça, c'est aussi un thème qui me semble intéressant. Voilà, c'est 3 axes que j'ai essayer de déduire de la journée, mais qui ne sont ni exclusifs ni exhaustifs. Voilà. Alors, je vais laisser la parole donc à Magali pour qu'elle puisse nous faire part, justement, puisqu'on est sur le but est d'avoir une discussion sur les aspects pratiques, sur les difficultés rencontrées en mission handicap à Lyon 3.
je vais peut-être redire certaines choses déjà, mais en fait, moi, j'ai deux choses importantes. C'est qu'on a des enseignants, certains enseignants, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui viennent en formation, mais on a des enseignants qui nous disent pour eux, la dyslexie, c'est dans la tête, ou c'est pas un handicap, ou pourquoi ils ont des aménagements, etc. Donc ça les intéresse pas, c'est très clair. D'autres enseignants, par contre, qui viennent parce qu'ils ont un enfant qui a des troubles dys et qui aimerait bien que leur enfant arrive à l'université et trouve des choses en place. Le plus gros étonnement que j'ai, c'est les étudiants, en fait, par eux-mêmes. Parce qu'on leur explique, quand on les accueille, ce qu'on peut mettre en place, comment on peut les accueillir, ce qu'on peut leur proposer en termes d'accès aux salles de travail, etc. Et notamment par rapport à la récupération des cours. Donc, certains sont très, très demandeurs, mais on les revoit plus. C'est-à-dire qu'ils nous disent bien, en début d'année, oui, moi, j'aimerais bien avoir un accès aux cours. Si on récupère des cours et qu'on l'en transmet, ils sont super heureux. Si on ne leur transmet rien du tout, on ne les revoit plus. Alors que d'autres étudiants qui sont parfois hospitalisés ou pour d'autres qui ont d'autres problématiques, d'autres situations de handicap, repassent régulièrement en nous disant « Du coup, dans mon amphi, vous n'avez pas eu de donneur et est-ce que vous allez relancer? Est-ce que vous allez redemander ?» etc. Donc moi, je suis vraiment très étonnée par les étudiants avec des troubles 10. C'est de ne pas les voir plus souvent et de ne pas les voir venir nous raconter leurs problématiques. On a une étudiante pour laquelle on a mis quelques cours de soutien il y a quelques années en arrière parce qu'elle ne savait pas comment préparer ses fiches de révision. C'est-à-dire que c'était l'enfer pour elle. On s'est rendu compte que c'était plutôt du stress et de l'angoisse qu'autre chose. Elle a eu 4 séances de soutien par rapport à comment travailler ses fiches de révision. On avait mis des couleurs, on avait mis du A3. Elle a travaillé avec des étudiants qui étaient en master. 4 séances, ça a été terminé. Elle nous a envoyé un mail, elle était super contente. Elle avait travaillé et validé ses examens. Voilà, ça c'était bénéfique, mais c'était la seule. Donc je suis vraiment étonnée quand même que effectivement on a de plus en plus de lycéens qui arrivent à l'université, qui ont des troubles 10, soit ils ne viennent pas nous voir, soit quand ils viennent, c'est juste pour avoir des aménagements d'examen. Ça veut dire que le reste du temps, ils n'ont pas de besoin. Donc c'est juste la question que j'ai et que je remarque depuis quelques années.
Ouais, peut-être lancer le débat, peut-être du coup j'ai peut-être une question qui est que ce que j'entends là, c'est que à la fois, il y a cet effet, ce que Sylvain disait sur le fait que les étudiants disent, arrivant à l'université, d'une certaine manière, disent, ras-le-bol de l'orthophonie, je passe à autre chose, je tourne une page, et je me fonds dans une masse, d'une certaine manière, et je deviens invisible sur ce plan-là. Et ce problème d'invisibilité ou de visibilité, il se pose à tous les acteurs, du coup, du système, et on est sur un fil qui, par définition, est assez étroit, qui est que il faut respecter cette volonté de pas être stigmatisé, de pas être visible là-dessus. Et en même temps, moins on parle des troubles 10, moins ça paraît normal de se manifester pour demander quelque chose, ou, quand on n'est pas dyslexique, pour accepter l'idée que des étudiants 10 ont des besoins qui peuvent être totalement invisibles et pas se voir sur eux et pour autant être bien réels. Et j'ai l'impression que ce fil-là, ça veut dire qu'il y a une nécessité de transmettre et d'acculturer toute notre communauté à ces problématiques-là, qui est assez massive et qui va prendre un peu de temps. Je pense qu'il faut effectivement il faut de l'huile de coude et se retrousser les manches pour ça dans les années qui viennent, quoi.
C'est effectivement, c'est là que j'étais très intéressé par la présentation de l'équipe plurielle de Lyon 3, où il est question de la mise en commun du travail par donc service commun de documentation, service d'orientation, service de médecine préventive, enfin vraiment tous les services, parce que plus les services communiquent entre eux, plus il y a effectivement, on fait tomber les barrières, mais là où il faut, donc il faut aussi, et ce qui est intéressant, qu'il y ait des enseignants qui soient dans cette équipe plurielle, parce que plus les différents corps de métier qui travaillent à l'université et qui accompagnent les étudiants, les étudiants sont accompagnés par tout un ensemble d'experts, que ce soit dans les équipes pédagogiques ou administratives, et ça c'est extrêmement important. Si la communication passe, ça permet effectivement un accompagnement. Et il faut aussi effectivement communiquer auprès des étudiants. Et ce qui est extrêmement délicat, parce que comme tu l'as fait remarquer, ça les stigmatise. Il faut respecter leur liberté. Ils sont adultes, on n'a pas à appuyer sur là où ça fait mal. D'un autre côté, quand on est, alors je suis prof d'allemand et puis j'ai vu des étudiants effectivement en situation de handicap, c'est très facile dans une langue étrangère, enfin pour l'allemand ça marche très bien, de reconnaître des profils d'erreurs différents et on se dit tiens, l'étudiant est probablement dyslexique. Une fois j'aborde un étudiant sur ce sujet et je lui dis excusez-moi Alexandre, je veux pas vous blesser, enfin je savais que ça pouvait être assez violent, donc j'ai essayé de l'approcher gentiment et je lui dis je crains que vous soyez dyslexique. Réaction: non mais de toute façon je suis pas bête. Je lui dis non, mais Alexandre, j'ai jamais dit que vous étiez bête. Au contraire, je pense tout à fait l'inverse. Et ça, il n'y a pas de jugement. Je vous assure, déjà, c'est un trouble, c'est pas, et ça n'a rien à voir avec un niveau d'intelligence. Et ce n'est pas vraiment pas un jugement que je porte. Il dit mais de toute façon, je suis soigné. Et là, j'ai compris qu'il était effectivement dit, c'est qu'il le savait. Je dis oui, enfin, je suis désolé, c'est un trouble, ça ne se soigne pas, c'est chronique, mais vous pouvez mettre en place des remédiations. Et effectivement, il a accepté d'aller voir donc une orthophoniste qui l'a suivi parce que il avait complètement refusé de poursuivre. Alors, il a repris l'orthophonie qu'il avait complètement arrêté, qui refusait. Quand je l'ai connu, cet étudiant, c'était en deuxième année. Mais j'ai appris par la suite qu'effectivement, il l'avait suivi de manière un peu légère, son orthophonie, et que ça n'avait pas eu des grands résultats. Mais toute la difficulté, c'est que justement, ces étudiants, on sent, quand on leur parle, ils sont blessés, ils sont rétifs, et ils sont vexés qu'on leur parle de leurs troubles, et à la fois, ils sont rassurés. Et du coup, toute la discussion, tout le problème de la communication autour de la dyslexie, ou des troubles invisibles, en général, c'est d'arriver à montrer à l'étudiant qu'on l'aborde avec bienveillance, qu'il n'y a aucun jugement de valeur surtout. Parce que l'étudiant est le premier à porter le jugement de valeur, du coup. Et du coup, arriver à dire, il n'y a pas de jugement de valeur, on peut en parler. Et essayer de créer cet espace de dialogue. Mais savoir que c'est véritablement une souffrance pour l'étudiant à qui on dit, je reconnecte à ce trouble. Donc ça, c'est vraiment une énorme discussion. Et ça pose donc la grosse question des politiques de formation dans les établissements d'enseignement supérieur. Comment aborder, quelle politique de communication mettre en place, quel rapport entre les services. Et ça va être, je pense que c'est l'enjeu autour de cette question de l'accompagnement des 10 dans le supérieur.
Bonjour, moi je suis dyslexique, adulte. Bon, moi, je vous parle un petit peu de mon histoire quand même, c'est que en faisant des cours d'anglais, bon, dans le cadre de ma société, bah, j'avais énormément de difficultés. Et à l'âge de 40 ans, bon, beaucoup de gens me disaient que, bon, déjà au niveau anglais, me disaient que j'étais dyslexique. Mon épouse me disait, bah, par rapport à ma faute d'orthographe, je suis dyslexique. Et effectivement, à 40 ans, j'ai découvert que j'étais dyslexique. Aujourd'hui, je suis confronté à un problème, effectivement, bah, comme on dit, bah, le problème de l'adulte. Bon, en définitive, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre moyen que d'essayer de comprendre mon propre problème au niveau de, bah, en allant voir sur Internet, en t'écoutant, en participant à ce genre de choses. Voilà. Après, bon, du coup, bah, étant par moi-même complètement confronté aux choses, bah, je trouve vraiment fabuleux tout ce que vous faites. C'est très bien. Beaucoup de courage. Bah, beaucoup de courage. Bon, je vous dis, bah, bravo à tout ce que vous faites et donnez du courage aussi à tous vos élèves qui sont dyslexiques, qui en ont besoin, ils ne sont pas bêtes. Alors, justement, par rapport au monsieur qui parlait du TOEIC, le TOEIC n'est abordé que sur un aspect, écrit, que sur un aspect écrit. Aujourd'hui, bah, il existe le BULAT qui permet de rassembler les deux choses, à savoir l'écrit et le... Voilà, ce qui fait que pour... Dans ma société, tout simplement, bah, je travaille à l'international. Je suis obligé d'être maintenant en formation d'anglais pour arriver à faire mon boulot, du fait de modifications qu'il y a eu dans la société. Et voilà, je suis confronté à des problèmes d'anglais qui sont énormes. L'alphabet phonétique m'a énormément aidé, tout simplement, parce que j'ai pu mettre une relation entre le graphème et le phonème. Voilà. Après, ce que je peux dire aussi, bah, tout ce qui est fait au niveau des recherches de Nathalie sur le son, je trouve ça excessivement intéressant. Voilà. Je voulais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice par rapport à ma propre expérience et par rapport à tout ce que j'ai écouté qui est vraiment très bien. Voilà.
J'ai plein de petites questions, je vais peut-être pas toutes les poser, ça va faire long, mais je me demandais déjà, premièrement, donc je suis enseignante, et donc on a régulièrement des étudiants qui ont des temps majorés, typiquement tiers-temps, et on se demande des fois avec des collègues, donc ils vont travailler peu de temps après, est-ce que ça va pas faire un choc arriver en entreprise quand ils auront des documents à lire ou à produire, ils auront pas ce tiers-temps, ce temps majoré? Et du coup, est-ce que c'est leur rendre service que toujours leur accorder un tiers de temps en plus pour les productions écrites? Comment anticiper ensuite la transition? Alors après, on ne sait pas forcément comment ça se passe, parce qu'après, on les perd de vue, mais voilà, est-ce que c'est toujours les servir que d'accorder systématiquement le tiers temps
Alors, je pense que Magali saura bien mieux répondre, mais comme c'est une question que je me suis déjà posée dans la pratique professionnelle, je me permets d'apporter un premier élément. C'est la première chose, c'est justement, donc on en avait parlé d'ailleurs dans le groupe de réflexion, c'est que le temps majoré, c'est un peu une cotère, non, c'est pas forcément une cotère sur une jambe de bois, mais c'est un peu la réponse systématique qui n'est pas toujours suffisamment adaptée. Par exemple, moi j'ai une étudiante qui fait de l'allemand qui est venue me voir pour une dyslexie et puis qui avait un tiers-temps. Bon, je me suis dit, mais le tiers-temps, il va vous servir à quoi? En plus, c'est de la traduction, donc la traduction, vous voyez un peu, pour une étudiante dyslexique, quand même, c'est pas gagné, hein. Bon, j'ai décidé de lui changer, ce qui est quand même pas légal, hein, faut être honnête, mais je lui ai changé ça, je lui fais une épreuve orale. Surtout que c'est une étudiante qui veut pas devenir traductrice et qui veut même pas continuer ses études de langue puisqu'elle fait une double formation. Donc, je pense qu'il faut effectivement, et ça on en avait parlé, c'est que toutes les formations, tous les aménagements doivent vraiment être adaptés au cas par cas. Donc, le temps majoré est peut-être un peu trop systématiquement pris sans, voilà. Après, ce qui est intéressant dans la question, c'est justement la question de la vie professionnelle. D'ailleurs, comme Pascal parlait de la question de travailler dans une société, etc. J'ai juste une anecdote. C'est une collègue qui me dit une fois, Sylvain, j'ai un collègue de chinois. Une collègue qui me dit, Sylvain, j'ai un étudiant dyslexique. Elle me dit, ouais, il a des difficultés, il doit être dyslexique. Je lui dis, écoute, moi, j'en sais rien. Et je l'oriente vers une collègue du SCUIO qui elle-même l'orientait vers une praticienne, etc. Et en fait, l'étudiant, bon, il le savait, il l'avait pas dit. Et ce qui, pour le chinois, est quand même très gênant, il était dyspraxique. Il était dyspraxique. Bon, il y a eu tout et c'était impossible pour lui d'écrire un idéogramme, alors qu'il parlait très bien le chinois pour avoir vécu en Chine. Eh bien, comme c'était pas possible qu'il continue sur un cursus où il fallait écrire en chinois, il s'est orienté vers un diplôme d'anglais, il travaille avec la Chine en anglais. Mais il y a eu tout un travail sur son orientation. C'est-à-dire que ce qui peut être important dans l'accompagnement des 10, c'est une fois qu'ils sont qu'on les a repérés, qu'on travaille avec eux, qu'on parle avec eux, c'est travailler avec eux sur leur projet professionnel et, quel métier vas-tu exercer, quelles compétences seront nécessaires et comment est-ce que tu vas t'adapter. Après, c'est peut-être justement le fait d'avoir un tiers-temps qui soit un tiers-temps bien aménagé, où il y a un apprentissage, on en a parlé là dans la journée, par exemple apprendre à servir des ordinateurs et de tous les logiciels, un professionnel peut par la suite travailler avec son ordinateur portable et ses logiciels. Donc, mais il faut qu'il ait peut-être appris, enfin je veux dire l'université peut être un bon moyen, un bon temps pour apprendre à servir de ses logiciels et dont il pourra servir plus tard. Voilà. Mais je pense que Magali pourra compléter.
Moi je vais ramener ça à n'importe quel type de handicap, c'est-à-dire que si vous avez des aménagements à l'université, comment se fait-il que vous n'en ayez pas besoin à l'extérieur? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour ces étudiants-là? Il faut les accompagner vers la RQTH et donc c'est au niveau des MDPH. Les MDPH, le problème, c'est que souvent, certains, le trouble 10 tout seul, ils ne savent pas bien ce que c'est ou ils ne savent pas bien gérer. Mais il n'empêche que si un étudiant a des difficultés, il a eu des difficultés à l'école, il a été accompagné au lycée, arrivé à l'université, il va demander un aménagement de temps dont il va se servir, peut-être mal, mais il va s'en servir. Qu'est-ce qui va se produire arrivé dans le monde du travail? Il va peut-être avoir besoin d'un aménagement de poste, simplement peut-être quelqu'un qui a une grosse difficulté, un dragon speaking, ou un logiciel antidote, ou de dire j'ai besoin d'être d'un espace isolé. Quoi qu'il en soit, il aura besoin d'une adaptation ou d'un aménagement. Donc oui, il faut les accompagner vers le dossier MDPH. Ce qui est compliqué après, c'est de faire reconnaître ça. Voilà. Et si nous, on leur dit, après l'université, vous serez plus handicapés, alors ça sert à rien de faire tout ce qu'on fait pour tous les étudiants.
Après oui, enfin, je pense que ça se discute quand même, parce que peut-être que, effectivement, plutôt que de demander une RQTH, on le sait pertinemment, hein, qu'il y a des entreprises qui embauchent très bien les RQTH et d'autres qui préfèrent payer les quotas, quoi. Donc, je veux dire, ça sert pas toujours d'avoir la RQTH. Après, je pense que des adaptations de poste peuvent se faire aussi juste par le dialogue avec l'employeur, sans que ça passe forcément par une reconnaissance par la MDPH, quoi. Mais oui, comme dit Lucie, c'est vrai que c'est la réticence aussi des jeunes de se passer de l'aide à laquelle ils ont droit. C'est vrai que, par exemple, là, j'ai le souvenir, j'ai vu cette année une étudiante de Master 2 qui se préparait pour le CAPES, donc qui allait passer un concours pour lequel elle n'aurait pas droit aux aménagements. Je lui ai dit, peut-être que cette année, on va quand même au moins essayer d'enlever le temps supplémentaire, parce que vous ne l'aurez pas pour le concours, il faut s'entraîner, quoi. Ouais. Elle me dit, non, je risque de rater mon Master 2, il faut que je valide mon Master 2, quoi. Donc, c'est difficile, hein, vraiment, de... soit de leur enlever ce temps supplémentaire, soit de le diminuer, quoi. Enfin, c'est...
Et je peux compléter un peu, c'est un peu sur le même sujet. Donc, je travaille en unité, donc on a des étudiants qui travaillent directement après, donc qui passent des entretiens alors qu'ils sont encore chez nous. Est-ce que lors de l'entretien d'embauche, que ce soit pour le stage ou un travail après, est-ce qu'il faut qu'ils parlent de leur dyslexie, de leur handicap, sans savoir s'il va y avoir des aménagements possibles ou pas, parce que s'ils déposent un dossier, voilà, apparemment c'est compliqué, ou est-ce qu'ils taisent ça et une fois embauchés, ils mettent en place éventuellement des demandes? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on cache, vu que ça se voit pas? Enfin,
ça se voit pas, mais je pense que l'employeur ils sont assez vite compte, hein, quand même, quand dans les mails il y a 15 fautes ou.
Ouais, mais bon, si le CV, la dématérialisation a été corrigé par des correcteurs, par un ami, par nous, on les aide aussi avec leur CV, leur lettre de motivation, on corrige des tas de fautes. Alors après, ça peut être aussi pour le stage, parce que le stage, comme c'est 2 mois de stage, c'est pas non plus pour la vie entière, donc peut-être que les recruteurs font moins attention. Mais voilà, est-ce que c'est une information que l'étudiant doit donner, doit garder, ou c'est selon ce qu'il veut?
Moi, je vais vous dire que ça va dépendre de lui. Il fera bien ce qu'il veut au moment où il voudra. Maintenant, si c'est une maladie honteuse d'être dyslexique, il vaut mieux qu'il se taise. Et puis, si c'est pas une maladie honteuse, que c'est un trouble pour lequel il aura eu des remédiations ou des accompagnements, il vaut mieux qu'il en parle. Mais ça lui appartient totalement. Ouais. Ça nous appartient pas à nous. C'est pas à nous. Franchement, de les conseiller, de les accompagner vers des dossiers, des demandes, on le fait. Quand ils sont confrontés après à déposer un dossier qui ça dure des mois et pour finalement pas avoir de réponse ou peu de réponse, c'est compliqué. Donc leur dire ce qu'il faut faire après l'université, je me vois mal leur dire moi il faut faire ça, ça, ça et ça. Par contre, il faut leur dire de se baser sur leur expérience, sur ce qui s'est passé à l'école, sur ce qui s'est passé à l'université, et de voir et d'ajuster par rapport à leurs besoins. Soit ils s'en sortent sans le dire, et soit ils s'en sortent pas.
Ça c'est clair, parce qu'en plus une fois qu'ils arrivent en plus dans le travail, ils ont une visite avec le médecin du travail qui les déclare aptes ou pas au travail. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à l'université on peut pas les déclarer aptes ou pas à la formation, quoi. Donc c'est vrai qu'on voit des gros dyslexiques dysorthographiques qui veulent être profs de français, on voit des phobies sociales extrêmement importantes qui peuvent même pas venir en cours, qui veulent être instites, on voit des autistes qui veulent travailler dans la com, enfin c'est donc voilà, c'est vrai que je pense que vraiment, ce qui est capital, c'est effectivement, c'est le travail de l'orientation professionnelle en amont, quoi.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est un truc qui est assez bête, mais c'est le problème se pose de la même façon qu'une femme qui est enceinte, et est-ce qu'elle doit dire à son employeur qu'elle est enceinte ou pas? C'est exactement pareil.
Oui, ça finira après, pas se voir, c'est pareil.
Bah, c'est exactement pareil. Après, le fait de... Après, bon, moi, j'étais embauché alors que, bon... J'étais embauché alors que je savais pas moi-même que j'étais dyslexique. Bon, après, aujourd'hui, par rapport à la difficulté que j'ai au niveau de mon anglais, ou simplement, si j'obtiens pas le niveau adéquat, mon employeur me demande de changer de poste où je serai moins confronté aux problèmes de l'anglais, à répondre au téléphone ou à écrire ou des trucs comme ça. Fait qu'aujourd'hui, le RH me dit, mais si, au regard des... Parce que là, je suis en formation d'anglais, au bout duquel je vais avoir le bulat qui lui va me donner mon niveau. Et le niveau que je vais obtenir au niveau de mon anglais va me permettre de savoir si je suis capable de tenir ou pas de mon poste. Voilà. Et à l'issue de ça, en discutant avec des neurologues, m'ont dit, mais monsieur, peut-être qu'il va falloir admettre que vous ne pourrez jamais apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je baisse pas les bras et je me bats corps et âme pour essayer d'apprendre ce foutu langue que j'aime beaucoup. Voilà. Et par contre, effectivement, et après, bon, le CICRH m'a dit, mais peut-être est-ce qu'il va falloir vous faire reconnaître en tant que travailleur handicapé. Voilà. Bon, par exemple, j'ai un trouble de l'attention et je travaille en open space. Et aujourd'hui, je ne demanderai jamais à mon employeur, aux grandes dames, à mesure où j'essaie de me faire plus petit possible, d'avoir mon propre bureau. Voilà, bon, là c'est... Et après, bon, quand on dit, je suis dyslexique, l'handicap que j'ai, il est celui-ci, déjà, il n'est pas visible. Et puis les gens, ils ne savent pas ce que c'est que la dyslexie. C'est voilà. Et dernièrement, je viens d'avoir chaque année, on fait ce qu'on appelle des bilans professionnels avec son employeur par rapport à son évolution de carrière. Et au même moment, je lui ai remis un fascicule qui explique ce que c'est que la dyslexie. Voilà, parce que c'est deux mondes, quoi. Voilà, c'est deux mondes.
Mais je pense que tu dis, c'est la même chose pour les profs. Il y en a, pourtant, c'est des grands profs, ils disent des âneries. Ils connaissent pas la dyslexie. Donc, je pense que vous avez du travail à faire avec vos collègues. Et, excusez-moi, mais en tout cas, je parle de profs du secondaire. Mais profs d'université, je pense que c'est pareil. C'est ce que vous aviez dit aussi. Donc, c'est par là qu'on commence. Voilà. Ça se fait pas en un jour, évidemment.
J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que en fait c'était un peu le but de ce workshop, c'était d'apporter des connaissances sur la dyslexie, sur l'étudiant dyslexique à l'université, sur ce qui existait, à nos confrères et consoeurs. Et du coup, on se demande, bah, maintenant qu'on a fait ça, bon, on est contente parce que finalement, on s'attendait pas à avoir autant de monde. Hein. On avait établi 25 personnes, il y a eu 70 inscrits, bon, bah, des petites annulations, mais voilà. Donc, d'un côté, on s'est dit, c'est pas mal, mais d'un autre, c'est quoi la suite, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Un autre workshop, ok. Donc, on est en train de mettre en place le MOOC obligatoire. Non, mais voilà, enfin, c'est pour ça que je voulais une table ronde, c'est aussi pour savoir, mais vous, en tant que soit enseignant, soit maître de conf, voilà, mais quelle idée vous avez? Enfin, donnez-nous des idées, parce que comment on peut faire ça? Comment on peut dire à nos collègues, bah, venez, il faut apprendre sur ce type de handicap. Mais, et pas que ce type, j'ai envie de dire. Il faut avoir... voilà. Donc, du coup, on est à l'écoute, parce qu'on est en train de mettre en place un MOOC, parce qu'on se dit, bon, bah, les personnes qui sont pas venues, peut-être que si on met... cette formation pas sous ce format, ça va être adapté, ça va être retravaillé, bien entendu, mais peut-être que si on le met en ligne, eh ben, ça va toucher de plus en plus de personnes. Mais voilà, en tout cas, on est à l'écoute parce qu'on aimerait effectivement viser large. Mais bon, voilà. Il y avait...
Moi, je pense que vraiment, pardon, l'intégration des enseignants dans les équipes plurielles, elle est capitale, quoi. Voilà, des enseignants qui sont référents handicap, qui sont identifiés au sein de leurs composantes, voilà, auxquels leurs collègues savent qu'ils peuvent faire appel en cas de difficultés, de questionnement. Et vraiment, nous on voit, hein, quand ils participent aux commissions, c'est oui, de toute façon, franchement, on peut pas faire sans eux, quoi. Enfin, je trouve que prescrire des aménagements d'épreuves alors qu'on sait pas à quoi ressemble l'épreuve, c'est complètement aberrant, quoi. Enfin, franchement.
Merci. Je voulais simplement rajouter quelque chose qui est complètement trivial, mais c'est quand même la base. Ces pathologies-là, elles ne sont absolument pas présentées dans la formation initiale des enseignants. Et je pense que tant qu'on ne fera pas quelque chose comme ça, on fait que mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Enfin, c'est ce qu'aurait dit ma grand-mère. Hein, mais bon, en gros, c'est ça. On a l'impression d'intervenir. Vous voyez, par exemple, bon, une journée comme ça, les gens viennent. Donc, on se rend compte qu'on répond à une demande. Moi, ça fait 10 ans que j'interviens dans un DU de neuropsychologie qui s'adresse essentiellement à des enseignants qui accueillent dans leur classe des enfants qui ont différents types de problèmes, dont des problèmes qui relèvent du 10 ou du trouble envahissant du développement, qui sont autistes, etc. Et ils attendent d'avoir à peu près 10 ans de carrière pour avoir droit à une formation dans laquelle on va enfin leur expliquer ce qu'est la dyslexie. Alors bien sûr, en face de moi, j'ai des gens qui ne sont pas niais du tout et qui sont déjà allés chercher de l'information, qui sont allés lire Science et Vie, la recherche, et qui ont regardé des tas d'émissions à la télé, parce qu'aujourd'hui les choses sont quand même bien vulgarisées, hein, dans le bon sens du terme. Mais bon sang, pourquoi cette réticence dans la formation initiale des maîtres des écoles pour ne serait-ce que consacrer quelques journées à expliquer ce qu'est la dyslexie? On voit bien qu'en une journée ici, avec des gens motivés, on arrive à, ben, je sais pas moi, à répondre à des tas de questions. C'est pas si difficile. Moi, j'adore aller enseigner à ces personnes qui ont 10 ans de carrière. Enfin bon, voilà, les échanges, ils sont hyper intéressants, mais ils sont tous là à regretter en disant, mais pourquoi on nous a pas dit ça plus tôt? Enfin, simplement, pourquoi on nous a pas dit que telle police, elle est pas bonne, voilà, c'est bien de mettre un interligne. Enfin, voilà, d'expliquer le fond des choses, qui est pas finalement si compliqué que ça, qui est pas... On n'a pas de raison. Enfin, en tout cas, du côté des chercheurs, je crois qu'il y a vraiment une volonté de diffuser ce qu'on commence à comprendre. On n'a pas tout compris, hein, sur les troubles 10. Mais il y a vraiment une vraie volonté de diffuser tout ça. Je le sens aussi de la part des étudiants qui m'accompagnent dans ces démarches. Il faut voir toutes les manifestations auxquelles au laboratoire on participe chaque année. Tout ce qui est journée des 10, tout ce qui est fête de la science, etc. Je crois que vraiment le monde de la recherche aujourd'hui est plus du tout ce que ça a pu être il y a 20 ans. C'est pas du tout des gens qui sont dans une tour d'ivoire. Ils ont vraiment envie de communiquer. Mais tant qu'on n'aura pas la possibilité d'intervenir au niveau de la formation initiale, je crois qu'on va perdre beaucoup de temps et d'énergie.
Le problème est tout autre à l'université, parce qu'il n'y a pas de formation initiale. Pour les maîtres de conf.
Justement, c'est pour répondre à votre question sans y répondre. J'ai aucun élément de réponse à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ça, j'en sais rien. Je vous en prie. Ce que je sais en revanche, c'est que j'avais énormément de collègues qui étaient très très motivés pour très intéressés par cette journée. Et puis pour des raisons X ou Y, elles n'ont pas pu venir. Donc ça veut dire que si c'est sur un autre, si y a un MOOC, s'il y a d'autres modalités, c'est des gens qui vont s'y intéresser. Et puis l'autre point, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant de l'avoir fléché sur l'université, parce qu'il me semble quand même que dans le primaire et dans le secondaire, il y a une prise de conscience. Mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a autant d'aménagements à prévoir que d'enfants ou d'étudiants dyslexiques quasiment, et le problème du nombre auquel on est confronté à l'université fait que ça va être d'autant plus complexe que, contrairement à la maîtresse qui a une classe toute l'année, elle peut avoir un travail un petit peu individualisé. À l'université, on sait tous que quand il y a un amphi de 400, même si on a les étudiants en TD, c'est une heure par semaine, et donc ce travail-là, s'il n'est pas relayé effectivement si on n'a pas la chance qu'il soit relayé par des équipes bien en place, ça va être d'autant plus difficile, même s'il y a une prise de conscience individuelle au niveau des différents enseignants.
Individuel et collectif, parce qu'on voit bien, nous, on a eu pas mal de demandes pour intervenir dans des filières, dans des établissements, mais c'est pour ça qu'on a pensé cette journée, parce qu'au vu de la demande, on s'est dit, bon, bah, autant faire quelque chose sur une journée qui rassemble des individus de plusieurs établissements. Mais donc ça veut dire que vraiment il y a une prise de conscience, qu'il y a envie de comprendre, de connaître, d'aider. Et c'est pour ça, j'ai envie de dire, avec cette journée, on veut pas clore le chapitre, quoi. On veut justement ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que nous, voilà, comme dit Nathalie, avec la bonne volonté, avec tout ce qu'on a, on peut proposer des choses, mais il faudrait pas que ça en reste là. Donc comment est-ce qu'on peut faire quand on devient maître de conf ou quand on est vacataire en cours pour sensibiliser ces enseignants qui vont être face à des classes et qui n'ont pas de formation d'enseignant, en fait. Ils sont chercheurs, ils ont fait une thèse, mais voilà. Comment ?
Comme j'ai le micro. Oui, pour répondre peut-être à la question du nombre, moi je pense qu'il y a un levier qui est intéressant, il y en a un deuxième aussi dont j'ai envie de parler, mais un levier qui est intéressant par rapport au nombre. On dit oui, à l'université, on a une masse devant soi, c'est-à-dire qu'on fait de l'enseignement massif ou massé et pas de l'enseignement distribué, où c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, hein, et ça on n'en disconvient pas. Cela dit, on parle aussi, quel que soit le type de handicap d'ailleurs, du concept universel, c'est-à-dire que si on arrive à faire... Ce qui sert à la minorité va servir à la majorité au final. Et ce qui peut servir, quand on adapte ses cours pour des étudiants qui ont des troubles particuliers, ça va pas nuire aux autres étudiants, mais au contraire, parfois, ça va même les aider, les autres étudiants. Et je trouve que là, quand on discute, moi j'ai souvent, très souvent, quotidiennement, l'occasion de discuter avec les enseignants, quelles que soient les disciplines, et au final, c'est ce qu'ils trouvent, enfin, c'est un levier extraordinaire quand on arrive à bouger ça chez eux. C'est-à-dire que votre pédagogie, certes, ça va vous demander un tout petit peu de travail au départ, mais après tout, c'est le propre du pédagogue, hein, de travailler comme ça, me semble-t-il. Mais en même temps, ça va servir, ce que vous allez mettre en place, ça va servir à l'ensemble des étudiants, au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Et il y en a même qui vont vous remercier de ce que vous avez mis en place. Et le deuxième levier, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'on pourrait davantage, me semble-t-il, mais ce sera un travail un petit peu de fourmi, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les pratiques. En tout cas, moi, j'ai bien envie de le faire chez nous, c'est d'aller voir les initiatives innovantes, voire intéressantes, que mettent en place les enseignants. Parfois de façon tout à fait humble, ils nous appellent souvent en disant on voudrait mettre en place ça, on a cette situation là qui se présente, cet étudiant là, ces difficultés là, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on n'est pas dans de l'avantage et pas de la compensation, et ils nous posent vraiment ces questions là, et ça va même au-delà de ça, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'on évalue au final, qu'est-ce que c'est que l'évaluation, et quand on doit adapter une épreuve pour la transformer, pour l'adapter pour l'étudiant, on se pose d'abord et on les amène à se poser aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie d'évaluer ? C'est quoi que vous évaluez ? Ce sont des connaissances, des compétences écrites, des compétences orales ? Et à partir de là, il y a une vraie discussion pédagogique, et de ce fait-là, la question de l'évaluation, elle est intégrée en amont du dispositif de formation, ce qui devrait être le cas dans la majorité des cas, et de ce fait-là, ça devient intéressant aussi pour l'enseignant. Et je terminerai en disant, souvent, c'est les meilleurs ambassadeurs, les plus récalcitrants au départ, qui disent oui, mais ça, c'est dans leur tête, hein, qui sont dyslexiques, etc. voire d'autres, pour d'autres types de pathologies, et bien d'un seul coup, quand ils font la rencontre avec l'étudiant, quand il y a un vrai travail affiné sur ce qu'on met en place, comment on aménage, et ça devient passionnant même pour eux, et ça, ce sont les meilleurs ambassadeurs après pour porter la bonne parole auprès de leurs collègues.
Je voudrais poursuivre un petit peu sur cette ligne en vous demandant, enfin à vous tous, qui sont surtout le personnel de soutien, le personnel des services handicap et compagnie. Je ressentis à plusieurs reprises aujourd'hui une sens un petit peu de réticence de la part des enseignants en général à changer leur pédagogie, aménager, enfin qu'il peut y avoir de la résistance à ce type de consigne. Donc ça c'est une réalité, parce que le MOOC dont on a parlé à quelques reprises, au contraire de notre journée aujourd'hui, la journée aujourd'hui était ouverte à tous, les services de soutien, les enseignants. Le MOOC est vraiment censé être un outil qui est fait pour sensibiliser et équiper les enseignants, et donc un outil que vous pouvez déployer, vous qui sont en rôle de soutien, vous pouvez le déployer comme outil pour aider vos enseignants à mieux interagir avec les étudiants. Donc, mais cette question de réticence, ça me surprend un peu sans trop, enfin, parce que personne n'aime qu'on vienne dire comment il faut faire. Je trouve que le truc et astuce, enfin, les questions d'utiliser les espacements plus larges et le choix de police, ça devrait passer facilement. Mais les trucs plus subtils, peut-être pas.
J'ai une toute petite question. Est-ce qu'il y a un professeur dyslexique ici ? Voilà. Fait que du coup, ça serait quand même d'essayer de beaucoup plus les intégrer à votre travail, parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre leur approche. Ils ont, je pense qu'il faut. Bon, il y a aussi une problématique. Il y a une problématique aujourd'hui. Des parents ont des enfants qui présentent des difficultés. On va les voir. On les emmène. Ses parents emmènent l'enfant chez un orthophoniste. L'orthophoniste leur dit vous avez un enfant qui est dyslexique. Et le parent pose la question, mais comment ça se fait qu'il est dyslexique ? Et dans certains cas, on leur dit, c'est une maladie héréditaire. Et là, on a un parent qui en prend en plein la figure en disant, mais du coup, je suis dyslexique. Voilà. Et aujourd'hui, on a des parents qui sont dans un désarroi conséquent du fait de cette dyslexie. Et ce que je trouve dommage, personnellement, c'est que beaucoup de ces parents ont réussi dans leur vie. Se sont mis un tas de cannes et de béquilles. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un relationnel, un moyen de pouvoir, à ce que ces parents avec les béquilles qu'ils ont mis en place, puissent pas aller aider les enfants dyslexiques. Et il y a un relationnel, je trouve, qui manque. Il y a quelque chose qui manque où ils sont un peu. Il y a quelque chose qui manque au niveau des adultes. Aujourd'hui, on peut plus les aider. On peut les aider en ayant une certaine compréhension. On peut les aider par de l'écoute. Mais il y a un potentiel là qui est à donner. Il y a un potentiel qui est à donner pour aider les enfants et pour aider dans un certain nombre de démarches. Voilà. Et bon, voilà, c'est mon idée.
Pour la petite histoire, le roi Juan Carlos vient d'annoncer qu'il était dyslexique, que ça lui avait posé beaucoup de problèmes pour ses études, mais qu'il s'était accroché.
Bonjour. Moi, je voulais juste par rapport au. Comment les gens s'inscrivent ou pas, ou s'intéressent à la dyslexie. J'aimerais juste faire un petit sondage dans la salle, savoir qui, parmi les gens qui sont encore ici, ne connaissent pas de dyslexie dans leur environnement proche. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Oui, qui n'ont pas été confrontés à des gens dyslexiques. Je pense que c'est les enseignants-chercheurs, parce que moi je suis dans le supérieur, ils se rendent pas forcément compte que ce que c'est que d'être dyslexique et... Moi, pour avoir reçu des propositions d'aménagement d'examen, je suis maître de conférence en euros sur Grenoble, des fois, on voit arriver des choses qui sont un petit peu surréalistes et complètement déconnectées de ce qu'on peut faire concrètement. Exemple, l'année dernière, une étudiante qui n'était pas dyslexique, mais qui avait un aménagement parce qu'elle voyait pas bien, on nous a demandé d'imprimer les sujets d'examen en police de caractère 16, double espacement. Ça faisait 16 pages de sujets d'examen. Bon, par exemple, on se retrouve avec une séparation entre des recommandations qui sont peut-être fondées, mais à l'autre bout de la chaîne, ça peut faire des choses qu'on ne comprend pas, en fait, pour pas forcément déjà connaître quelles sont les difficultés de ces étudiants-là. Et je pense que pour accepter, pour aller se former ou recevoir des informations sur ces troubles invisibles, par définition, si on n'a pas été soi-même sensibilisé parce qu'on a un enfant, un parent, un cousin, enfin, quelqu'un dans son entourage qui a été confronté à ces difficultés-là, on ne va pas forcément avoir l'idée d'aller se renseigner sur qu'est-ce que c'est, au fait. Enfin, c'est juste un commentaire pour répondre peut-être à la question de comment, c'est une vraie difficulté, comment on va faire pour amener nos collègues à prendre conscience de ça. Et juste pour, en termes de pratiques qui prennent pas beaucoup de temps et qui jouent sur peut-être la confiance en soi et l'estime de soi des étudiants, moi en premier cours en amphi, hein, je propose aux étudiants qui ont des besoins spécifiques, donc qui soient salariés, parents, sportifs ou artistes de haut niveau ou autres, de venir me dire s'ils ont des besoins spécifiques, en fait, en termes d'apprentissage, que ce soit sur les diapos que je projette, sur la couleur des diapos. S'il y a un daltonien dans la salle et que je parle de ce qui est écrit en vert, ben, forcément, il va être gêné, hein. Mais je m'en rends pas forcément compte en tant qu'enseignant. Et une fois, donc, j'ai fait ça, et une fois, il y a des étudiants qui sont venus me voir en me disant, bah, écoutez, le fait que vous nous proposiez de venir, d'ouvrir la porte quelque part, de dire, si vous avez des difficultés, des besoins spécifiques, venez voir l'enseignant. Déjà, c'était apparemment quelque chose d'important pour eux. Donc, ça prend pas beaucoup de temps, ça change pas les pratiques pédagogiques, mais c'est quand on sait pas ce qu'il faut faire, déjà, demander à ceux qui ont des besoins de dire ce dont ils ont besoin, tout simplement.
Bravo pour ce que vous avez dit, hein, effectivement. Ouais, du coup, ça les rassure. Et le dyslexique a beaucoup de problèmes avec l'ordonnancement, le rangement, le classement. Et quand je discutais avec des enfants dyslexiques, l'enfant avait énormément de mal à classer ses cours dans son classeur. Et un jour, je lui ai posé la question, mais est-ce que tes professeurs t'ont appris comment ranger, classer, ordonnancer ton travail, mettre dans des classeurs? Et bon, tous, après, il me dit, mais bon, c'est pas trop grave, tant pis, parce que j'ai mon ordinateur. Je dis, montre-moi ton ordinateur et montre-moi comment t'as rangé tes cours dans ton ordinateur. T'as fait des directories, t'as créé, classement. Non, c'était tout sur le bureau, et tout était un peu en vrac, voilà. Et est-ce qu'ils ont des cours qui permettent de savoir comment classer, ranger les trucs? Fait que c'est un peu une boutade, mais des moments, on leur apprend à faire des trucs pas possibles, et puis peut-être qu'éventuellement, un fondamental, des choses relativement simples peuvent aussi les aider par effectivement le type aussi de venez me voir si vous avez moins de problèmes, voilà.
Par rapport à l'ordonnancement, ça me rappelle qu'il y a un projet à Lyon 2 pour l'année prochaine. On sait qu'à Lyon 2, de toute façon, en première année, tous les étudiants ont un cours de méthodologie, alors qu'ils prennent forcément assez mal parce qu'ils croient qu'on les prend pour des enfants, alors qu'on voit très vite qu'apprendre à écrire une dissertation, ça n'est pas facultatif en première année de fac. Donc ça, c'est un cours qui est prévu pour tous les étudiants de première année, mais il y a le projet de réserver un ou plusieurs TD aux étudiants déclarés à la mission handicap comme étant dyslexiques, pour non pas faire de la méthodologie, apprentissage de la dissertation, etc., comme on le fait pour tous, mais consacrer cette heure à travailler sur la prise de notes, mais non pas la prise de notes pour tout le monde, mais la prise de notes quand on est 10, pour travailler sur précisément comment ordonner ses connaissances, comment ordonner ses papiers, etc. Donc il y a ce projet, effectivement, d'avoir un TD de méthodologie dédié. Ça a été demandé à la mission handicap. Après, voilà, ça a été une demande qui a été faite. Par rapport aux réticences des enseignants ou le fait qu'il y ait des enseignants... Enfin, moi, par exemple, je me suis pas intéressé à la dyslexie parce que j'avais un proche ou une proche qui était 10. J'ai commencé par avoir des étudiants 10 pour m'y intéresser, mais je savais pas ce que c'était au départ. Et c'est juste après quelques années d'intérêt sur la dyslexie que j'ai appris que j'avais une nièce qui était poly 10. Mais ça a aidé, j'ai su vers qui l'orienter, c'était bien, c'était pratique. Mais effectivement, après, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir un proche 10 pour justement avoir cette sensibilité. Mais ce que j'avais observé, j'avais proposé une formation, d'ailleurs Nathalie avait participé entre autres, aux enseignants de mon département, une formation sur la question des 10. Eh bien, il y a quelques enseignants qui sont venus, et entre autres, il y en a une qui était là, enfin, il y en a deux qui étaient là, d'ailleurs, pardon, aujourd'hui, mais il y en a une qui est prof d'espagnol, qui prépare les étudiants au CAPES, et qui m'a demandé vers qui s'orienter pour que ces étudiants qui font le CAPES aient une après-midi, un cours sur ce que c'est que la dyslexie comme futur enseignant de collège-lycée. Donc c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un enseignant qui est sensible, qui va faire quelque chose, et puis les autres vont suivre. La collègue de chinois dont je parlais tout à l'heure était venue à cette fameuse formation. C'est pour ça qu'une fois, elle est venue me voir en me disant « Sylvain, j'ai un étudiant qui est dys. » En fait, bon, il était dyspraxique. Mais c'est un effet boule de neige, voilà. Et ça, je pense que c'est important qu'il y ait d'encourager les initiatives individuelles qui vont faire que d'autres enseignants vont s'agréger finalement, voilà. Et par rapport aux réticences des enseignants, une réticence qu'ont les enseignants par rapport à la question 10, c'est que la réponse qui vient souvent des collègues, alors je passe sur ceux qui disent que de toute façon les étudiants ne savent plus écrire et que c'est pas de la dyslexie, c'est juste de la complaisance, hein, on connaît, ça c'est bon, mais les enseignants de bonne volonté qui reconnaissent le 10, ils me disent non mais je veux bien faire des choses, mais j'ai déjà tellement de travail, j'ai tellement de choses à faire, et il y en a beaucoup qui vont lâcher en disant mais on peut pas m'en rajouter, la barque est pleine. Et je me dis une solution toute concrète, toute simple, c'est de faire un vademécum. C'est une page sur ce que c'est que la dyslexie. Une page. Je me souviens une chose qui, dans un vademécum, prendrait trois fois rien à expliquer. C'était une métaphore qu'avait employée une amie, donc orthophoniste, Clotilde Zomeno, pour nous dire ce que c'était qu'un dys. Elle disait, vous lisez un texte, n'importe quel texte, je sais pas, moi, L'île au trésor. Pour vous, c'est totalement évident de lire le texte. Elle nous l'avait projeté. Et elle avait dit, elle nous avait ensuite montré le texte brouillé, comme les diapos que tu nous as montré, pour nous dire voilà ce que voit un 10. Déjà, ça nous avait. Et elle avait pris ensuite la métaphore que j'ai trouvée très bonne du camion. Alors, je n'ai même pas le permis de conduire, donc j'étais d'autant plus impressionné. Elle m'a dit imaginez, vous avez que le permis B, vous devez conduire un 35 tonnes ou je sais pas combien, 15 tonnes, enfin bref, en marche arrière dans une ruelle entre deux poteaux. Et ben ça, c'est le 10 qui doit lire un texte que je viens de vous montrer. Et une métaphore toute bête, mais qui dans le public avait vraiment fait effet, parce qu'on s'est dit, oh, on a des étudiants qui ont cette difficulté à lire un texte, alors que c'est la base de notre travail. Et ça, ça avait provoqué une... Et on peut faire, je pense, une petite brochure avec ce genre de choses qui permettent aux enseignants de se mettre à la place d'un étudiant 10. Et puis ensuite, juste des consignes très simples, comme, oui, les sujets d'examen en interligne 2, en arial, pas de times, etc., pas de sérif, enfin, des choses toutes bêtes. Et là, les enseignants, si on leur prépare le travail et que ça leur demande pas des heures et des heures et des heures de préparation en plus d'une charge de travail qui est généralement assez conséquente, ça peut, je pense, avoir un rôle très, très positif, en fait. Mais cet effet, précisément, de préparation et de, voilà, de, ouais.
J'ajouterais que les enseignants sont pas différents de tout le reste de l'humanité et qu'il faut répéter les choses pour que ça rentre. Donc, il faut pas hésiter à le dire et le redire.
Pour la forme.
Pour la forme, c'est juste par curiosité. Ce qu'on appelle dysorthographie, c'est genre une sous-catégorie de la dyslexie ou c'est un trouble dys à part entière? Ou on sait pas?
Non. En m'appuyant sur les dyslexiques que j'ai rencontrées et les vraies données que j'ai pu voir, la plupart des dyslexiques développent en fait une dysorthographie. Mm-hmm. Mais cette dysorthographie va conduire à des types d'erreurs de production qui vont être de nature différente selon le type de dyslexie.
D'accord.
Et vous allez avoir des erreurs particulièrement aberrantes comme celles que j'ai projetées ce matin avec par exemple un mot comme j'ai un étudiant qui a une dyslexie de surface, il écrit au début de sa copie le mot alors, y a-t-il un mot plus fréquent que celui-là, hein, bon, avec deux L. Bon. Un peu plus loin dans la copie avec un seul L. Un peu plus loin à la fin avec un L mais il n'y avait pas le S à la fin. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça c'est un lexique orthographique qui est pas stable du tout. Mm-hmm. Voilà. Donc ça c'est ce qui inévitablement accompagne une dyslexie de surface.
D'accord.
Par contre chez un dyslexique phonologique, surtout avec l'avancée en âge, et en particulier chez ceux qui ont pu se cultiver en faisant des études, etc., il y a la possibilité de construire un certain lexique orthographique, donc des connaissances précises sur l'orthographe des mots, au prix de 10 fois plus de temps que les autres, mais c'est quand même possible. Et c'est pour ça que chez les adultes, parfois, dans certains cas, il n'y a plus de dysorthographie. Et la dyslexie paraît être seule. D'accord. À mon sens, la dysorthographie, c'est une conséquence quasi inévitable, au moins à un moment de la vie, de la dyslexie.
On peut pas avoir être dysorthographique, genre avoir un trouble avec l'orthographe sans être dyslexique. Ça, c'est...
Alors moi, j'en ai jamais vu. Maintenant, voilà.
Ouais, ce serait plutôt une conséquence de la dyslexie, d'accord.
Qui se sont déclarés comme ça. Voilà. Et quand on voit que même lorsqu'on leur demande de se déclarer, ils sont réticents à le faire, hein, on a compris, déjà la moitié disent qu'ils sont à la fois dyslexiques et dysorthographiques. Déjà, il y a ça, et puis il y a le type de déficit cognitif qui est à l'origine de la dyslexie. C'est pas toujours le même. Et si c'est un déficit qui est de type phonologique et uniquement phonologique, et il y en a pas tant que ça, hein, des dyslexiques qui ont ce qu'on appelle une dyslexie phonologique pure, mais quand ça existe, le pronostic qu'on peut faire, c'est qu'avec l'avancée en âge, si on arrive à les inciter justement à lire, et je reviens à votre question tout à l'heure, à quand même multiplier les expériences orthographiques avec les textes, ils vont arriver à construire un lexique orthographique et ils vont s'affranchir de leur dysorthographie. Voilà. Alors qu'un dyslexique de surface qui a avant tout à la base des problèmes visuo-attentionnels est souvent quelqu'un qui va garder une dysorthographie très importante et souvent extrêmement en décalage avec le reste de ses compétences et il aura très très peur de paraître idiot dès qu'il écrira le moindre mail. Je pense que j'en ai discuté avec beaucoup de praticiens, c'est toujours un petit peu le même commentaire qu'on a sur la rééducation. Au bout d'un moment, l'enfant n'est plus enfant, c'est un ado, et il veut plus entendre parler de la rééducation. Et après, quand il arrive jeune adulte, au lieu de se plaindre de sa dyslexie, dont il ne veut plus entendre parler, il se plaint d'autre chose, des conséquences de sa dyslexie ou des troubles qui sont associés à sa dyslexie. Et je pense que quand on comprend ça, ce mécanisme-là, qui est un mécanisme de défense finalement, hein, mais qui est louable comme tout mécanisme de défense, on se dit, oui, faire de la rééducation à tout prix jusqu'à un âge avancé, c'est peut-être pas la réponse. Par contre, c'est vrai qu'on peut compter sur leur inventivité et sur monsieur le disait très très bien tout à l'heure, d'autres dyslexiques adultes ou personnes souffrant de troubles dys d'un autre type, comme des TDAH, etc., expliquent quelles sont les compensations, mais aussi les stratégies très inventives qu'ils peuvent mettre en place, pas pour contourner le problème, mais pour essayer de traiter quand même l'information de leur manière. C'est payant à la fin, parce qu'ils sont adaptés. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça rejoint une question qu'on a eue très tôt dans la matinée, qui était peut-on guérir de la dyslexie? Est-ce que c'est incurable? Enfin bon, voilà. En plus, on utilise des termes qui font un peu peur, mais bon, voilà, c'est ça. C'est un peu le fond de la question et le fond de l'angoisse des gens qui souffrent de ça aussi. La réponse que j'ai pas voulu donner à ce moment-là, parce qu'il y en a eu d'autres, c'est que ce qu'on constate et ce qui a d'ailleurs été publié et donc validé scientifiquement, c'est que quand un dyslexique adulte a été bien rééduqué et que ça a marché et que de son propre avis il devient un lecteur peut-être pas expert mais suffisamment compétent, il suffit qu'il soit dans une situation de stress, à un moment de fatigue ou dans un environnement avec du bruit, et on en revient à la question de la distractibilité, et bien là le trouble dys ressort. Voilà. Et ça a l'air d'être vraiment les facteurs qui font que on peut pas vraiment parler de guérison complète, quoi. Voilà. Alors ça déborde un petit peu le cadre de votre question, mais ça permet aussi de faire le lien entre peut-être d'autres questions qui ont été posées plus tôt, qui ont émergé très vite et qui sont autour de cette angoisse sur est-ce que c'est curable ou pas.
Je voulais juste parler une seconde, enfin par rapport à la vademécum, il y a aussi la question de petite boîte à outils. Et je pense notamment à la numérique, au modèle de document pour les enseignants. Et puis pour tous, il me semble que ça s'est beaucoup démocratisé. Il va falloir que, Nathalie, tu me fais un cours sur les pas et les bas, là, enfin. Parce que je l'ai à l'envers, là. Les logiciels libres en reconnaissance de parole et en texte en parole, là, il me semble que ça devient très performant. Et comme les cours sont souvent distribués en format talk, ça pourrait être très intéressant que tout le monde dans la communauté universitaire se rende compte que ça existe. J'ai une question complètement naïve par rapport à ça, la dyslexie. Est-ce qu'une lecture dyslexique peut suivre un texte à un rythme parlé? Si le texte en parole, est-ce qu'il suit le texte sur la page en même temps d'écouter les paroles? Est-ce que c'est à la même vitesse? Est-ce que le fait de suivre le texte rajoute quelque chose sur le plan cognitif ou non? C'est un peu ça la question que je poserais.
Pardon, en plus la question m'est adressée. Oui. Je pense pas que ce soit une solution idéale. Alors toujours pareil, ça peut peut-être aider certains d'entre eux, mais je pense pas que ce soit une solution idéale pour tous parce qu'ils n'ont pas tous le même ralentissement nécessaire pour pouvoir arriver à une lecture correcte. Et si on leur impose un rythme à travers le rythme de ce qu'ils entendent, il se peut que ce ne soit pas le rythme qui soit adapté pour eux. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est une proposition intéressante et c'est typiquement le genre de choses qu'il faut essayer. Qu'il faut essayer parce que c'est le genre d'aide qui, quand elle marche, c'est très payant parce qu'il n'y a aucun effet secondaire. Encore une fois, ça coûte pas très cher de mettre en place ce genre de choses. Et voilà, oui, c'est tout à fait ce genre d'idée que je pense qu'il faut arriver à expérimenter. L'expérimenter de manière expérimentale, c'est-à-dire bien valider auprès d'un groupe conséquent de personnes, faire une évaluation avant-après, un groupe contrôle et tout. Et typiquement, ce genre d'idée, c'est ça que... vers quoi on devrait aller pour faire de la recherche appliquée, et ça commence à se faire.
Je voulais témoigner, poser une question. Témoigner, je suis aussi dyslexique. Alors, quand j'entends tout ça, je me suis dit, j'ai eu du bol, parce que j'en ai pas... Enfin, moi, si vous voulez, je suis passé à travers les gouttes. Par contre, avec des stratégies, effectivement, quand on disait guérir ou pas, ben non, on est dysorthographique, on le sait, mais alors maintenant, on a des correcteurs d'orthographe, c'est quand même fabuleux. Bon, ça laisse pas tout passer, mais ça améliore. Il y a une autre amélioration considérable, c'est l'accès à la littérature, au gros pavé. Parce que je lis des bouquins, mais pas, les gros pavés me découragent. Quand on les trouve en forme audio, c'est fabuleux. On s'enfonce des bouquins de 2000 pages et on prend
ça
son pied.
Ça permet un accès à la littérature.
Ah ben, voilà. Ça, ouais, je vois les autres lisaient les gros pavés. Moi, je reculais, c'est-à-dire que je lisais. Et dans mes études, par exemple, bon, moi, je suis médecin, j'ai passé l'internat, j'ai jamais eu de difficultés dans mes études, même peut-être au contraire, parce que ça repose une contrainte de synthèse. C'est-à-dire que quand j'avais un texte, une question, tant qu'elle tenait pas sur une fiche recto-verto, je la lâchais pas. Mais après, c'est un grand soulagement, parce qu'on va se balader, on va au ciné, on la lit à l'entracte, on va à la piscine, on va se balader, et donc ça donne c'est des stratégies de contournement. Alors par contre, la grosse limite, effectivement, on bute sur l'orthographe, on bute sur l'anglais. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais dans des groupes internationaux, on m'a dit, ben oui, t'as des idées, mais toi, il faut que tu bosses un peu. Mais je sais que bosser, pas bosser, toute ma vie, j'ai réessayé des méthodes, ça glisse, quoi. Ça glisse. Ça ne mord pas, quoi. Ça ne mord pas. Alors, indiscutablement, il y a des limites, mais je trouve qu'on découvre. Enfin, après, je pense que j'ai eu de la chance de... Ben, mais indiscutablement, dans l'extraction, enfin, par rapport à, si vous voulez, les études d'ADN, sur l'extraction, donc, enfin, qu'est-ce qu'on perd quand on apprend à lire? Enfin, je sais pas, dans les neurones de la lecture, c'est son chapitre. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Parce que c'est vrai que dans l'extraction visuelle, il y a des caractéristiques. Donc, je pense qu'il y a des stratégies d'adaptation, de construction spatiale, qui sont différentes et qui donnent accès à des modes de pensée ou de raisonnement, qui sont peut-être moins normés et qui sont pas inintéressants. Alors, la question, c'est une question un peu de terminologie. Pourquoi les cognitivistes disent remédiation et pas médiation? Ça, c'est un truc rigolo et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne une réponse qui, je sais pas d'où c'est venu, je sais pas.
Oui, je crois que c'est en réaction au terme de rééducation. Je crois que c'est aussi bête que ça.
Remède, ouais.
Remédier. Hein. C'est pour remédier. Oui. L'idée de médiation est intéressante.
Je me suis dit, si on dit remédiation, ça sous-entendait qu'il y avait eu médiation initiale. Oui. Dans la terminologie, dans la philosophie, enfin, pour avoir pensé ce terme-là, je me suis dit, tiens, c'est qu'il y a eu médiation initiale, mais je sais pas.
Hein. Je trouve que pour quelqu'un qui a une dyslexie, vous faites une analyse morphologique qui est quand même sacrément sophistiquée. Oui, bon, je pense qu'on a des termes aussi comme ça qui sont des modes. Et oui. Mais votre idée de médiation est intéressante.
Qu'est-ce qu'on sait exactement de l'hérédité? Est-ce qu'on peut être dyslexique sans que ça se passe par l'hérédité? Est-ce que l'hérédité joue un rôle important? On sait pas.
Personne qui veut répondre à ma place. Je ne suis pas du tout spécialiste des travaux dans le domaine de la génétique. Ce que j'en sais, par contre, c'est que c'est un des facteurs participant à l'origine de la dyslexie. Et aujourd'hui, par rapport à ça, pour la dyslexie, tout comme pour la plupart des troubles 10, de même que pour l'autisme d'ailleurs, on parle plutôt de facteurs épigénétiques. C'est-à-dire qu'on considère que chez certains individus, pour des raisons effectivement génétiques, des raisons familiales dues à l'hérédité, ils sont porteurs à la naissance d'éléments de vulnérabilité qui font que si dans les premières années de leur vie,
ils sont confrontés à des facteurs aggravants de cette vulnérabilité. Une dyslexie peut se déclencher beaucoup plus facilement que chez un enfant qui n'aura pas de facteurs de vulnérabilité initiale. Et pour être très clair, les facteurs déclencheurs qui peuvent faire que le génotype va se transformer en phénotype, on se penche de plus en plus aujourd'hui sur l'influence des toxiques dans nos environnements, dans l'eau, dans les métaux lourds, tout ce qui circule dans notre alimentation et qui, même dans l'alimentation de la future maman, peut être, même avant la naissance du petit, un facteur aggravant d'une vulnérabilité initiale. Alors, je pense que quand on voit les choses en termes épigénétiques comme ça, c'est assez positif finalement, parce que ça veut dire que, enfin, on reconnaît l'existence d'un élément génétique, mais, c'est se mettre en face d'une réalité. Mais on se dit aussi, maintenant qu'on sait ça, on a une responsabilité par rapport à ça en termes écologiques, au sens large, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a ce facteur de vulnérabilité qu'il va de manière certaine développer une pathologie. Et en tout cas, si on prend garde à notre environnement et à ne pas fumer quand on est enceinte, toutes ces choses-là, on réduit beaucoup les risques d'expression de ces facteurs-là. Voilà pour les travaux qui sont publiés actuellement autour de la génétique. Maintenant, peut-être que mes collègues ont connaissance d'autres travaux. Je crois que le terme de génétique, il fait peur. Et jusqu'ici, quand je présentais la dyslexie à mes étudiants à l'université, je ne parlais jamais des travaux sur la génétique. Et depuis que j'ai découvert cette approche et cette façon de décrire les choses en termes d'épigénétique, c'est plus tabou. Et finalement, c'est plus acceptable comme idée de voir les choses comme ça. De toute façon, apparemment, s'il y a un facteur génétique, il y a moyen de mettre en place un environnement favorable qui va éviter que la pathologie se déclare. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a un parent dyslexique qu'il va y avoir forcément une dyslexie chez son enfant, quoi. Bon, voilà, c'est peut-être le message qu'on peut dire. Voilà. Puis il peut être anglais aussi, oui. Voilà. Ouais, non, mais tout à fait. C'est très délicat la question de la génétique, parce que soit on se voile la face en disant il y a rien de génétique dans tout ça, et on met tout le tort sur l'éducation en général, ou sur la mauvaise volonté, ou sur le manque de motivation. Soit on accepte qu'il y a une part de responsabilité génétique, on regarde la réalité en face, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être plus comme il y a 20 ans quand on parlait d'origine génétique. Origine génétique, avant, ça voulait dire on peut pas y échapper. Tandis que là, je pense que la représentation d'une participation d'un facteur génétique à une pathologie, elle est en train de changer, il me semble, avec cette façon épigénétique d'avoir un discours sur l'hérédité. Voilà. Bon.
La question de la fin, je pense.
Bon, désolé. Une petite question. Je me demandais, Bernardo, c'est ça, avait dit qu'il y a des entreprises qui cherchaient des dyslexiques parce qu'ils étaient en général plus persévérants. Vous avez dit aussi dans votre étude Étudis qu'il y a pas mal de dyslexiques qui se déclaraient, qui se sentaient plus persévérants. Est-ce qu'il y a un peu des traits de caractère ou des domaines dans lesquels les dyslexiques sont plus performants de manière générale, ou voilà des qualités qui ressortiraient, ou sans vouloir faire un paquet des dyslexiques par opposition au reste du monde, mais
oui, ce serait peut-être dangereux.
Voilà. Un petit peu des tendances ou des choses que vous constatez.
Alors, j'ai fait un petit peu ce travail de recherche bibliographique pour savoir quels sont les grands traits qui ont été mis en évidence par des enquêtes auprès d'adultes dyslexiques, pas auprès des enfants, mais auprès des adultes dyslexiques. La seule chose positive que j'ai trouvée, c'est ça. C'est-à-dire que quand on les interroge eux-mêmes sur leurs traits de personnalité et sur leurs qualités, ils se trouvent des tas de défauts. Donc ils sont en général assez modestes, mais ils se sentent persévérants, et ils le sont. Et ils se sentent aussi, qu'est-ce qu'on avait dit, persévérants et... Alors la créativité, en fait, c'est un petit peu ce sur quoi je voulais rebondir. C'est ce qui est associé le plus fréquemment à travers les enquêtes et à travers les études cliniques qui sont faites au TDAH. apparemment, les personnes qui ont un TDAH ont plus souvent que les autres un bon niveau de créativité. Voilà. Une certaine audace, quoi, finalement. Hein, c'est le bon côté de l'impulsivité. Voilà. Et comme le TDAH est souvent associé à la dyslexie, voilà.
Alors, ben, pour conclure, je voulais dire, je trouve que c'est quand même une très bonne chose d'avoir fini de terminer cette journée sur la notion de créativité, puisqu'on a quand même beaucoup dit, et c'était important de le dire, que les 10 étaient souvent, avaient beaucoup de réticence à parler de leur dyslexie, ou, enfin, de leur trouble 10 du reste, ou de le faire reconnaître. Mais c'est très important, du coup, de terminer la journée sur cet accent en disant, ils ont des qualités qu'il faut quand même reconnaître. Et ce qui est important aussi pour cette journée, c'est qu'elle nous a permis, ensemble, d'élaborer des idées, et des moyens d'aborder la question pour accompagner les 10. Il nous reste donc à remercier chaleureusement les organisatrices et les intervenants de la journée qui étaient extrêmement fécondes. Voilà, donc merci beaucoup.